Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneau.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
8h sur Europe 1.
On demande vraiment de la visibilité, mais depuis longtemps. Hein. On a beaucoup de questions et pas de réponses.
Les restaurateurs dénoncent le flou des autorités. Le gouvernement envisage une réouverture de certains lieux autour de la mi-mai. Mais qui est concerné et quel sera le protocole? Les professionnels veulent des réponses.
Les élections régionales, on le sait, se tiendront bien au mois de juin. Mais faut-il d'ici là vacciner les assesseurs? Un élu du Nord vient d'interpeller le gouvernement.
Les Britanniques devront regarder la cérémonie devant leur télé. Les obsèques du prince Philippe sont organisées cet après-midi à Windsor. Dans l'intimité.
Et Paul McCartney avec un nouvel album, mais il n'en sera pas la star. Il laisse d'autres artistes interpréter ses chansons.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est une petite phrase à laquelle on se raccroche depuis 3 semaines. Cette réouverture promise par Emmanuel Macron le 15 mai prochain.
Sauf qu'aujourd'hui, cette affirmation se teinte de conditionnel. Il est trop tôt pour parler de réouverture, nous disait hier le ministre de la Santé. Flou entretenu par le porte-parole du gouvernement qui a évoqué une réouverture de certaines terrasses autour de la mi-mai.
Mais au bout de la chaîne, il y a les professionnels qui attendent et qui ont besoin de savoir et de s'organiser. Frédéric Michel est allé à la rencontre des restaurateurs de Toulon.
Grâce à la vente à emporter, Marco Cassola a limité les pertes. L'urgence aujourd'hui de ce chef napolitain à la tête de 2 restaurants à Toulon, c'est de préparer la saison d'été. Mais comment, sans perspective?
On n'a aucune date, c'est très compliqué parce qu'une saison, ça se prépare en avance. En tout, on doit avoir 17 personnes qui travaillent en salle. Aujourd'hui, j'en ai 2. Là, il y a même des personnes qu'on a fait signer une promesse d'embauche, mais qui après m'ont appelé, ils sont annulés parce qu'ils sont partis en Espagne où le marché de la restauration s'est ouvert.
Marion Pouget, la chef du Café Les Houbes à Bormes-les-Mimosas, elle aussi peine à recruter.
On doit embaucher 80 salariés et on ne peut pas les trouver comme ça si on n'a pas de réponse. Et c'est très difficile de leur dire « vous pourrez commencer en juin », sauf qu'on ne sait pas. On est dans un flou qui est total. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est nos fournisseurs qui sont aussi dans le flou que nous. On demande vraiment de la visibilité, mais depuis longtemps. Hein. On a beaucoup de questions et pas de réponse.
Dès la mi-mai, les terrasses sont-elles ouvertes dans toute la France? Quelle jauge? Quelle date pour un service en salle? Sans réponse, les chefs restent sur leur faim et inquiets. Toulon, Frédéric Michel, Europe 1.
Il y a donc cette incertitude sur les terrasses et sur les lieux de culte et sur les lieux culturels. Les écoles, en revanche, rouvriront bien le 26 avril prochain.
Partout en Europe, les gouvernements tentent d'organiser leur déconfinement. En Suisse, par exemple, c'est à partir de lundi. Isabelle Horry, vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Isabelle, chez nos voisins européens, qu'est-ce qui est déjà autorisé?
Eh bien, voir un squelette d'iguanodon, un tableau de Magritte ou une maison Art Nouveau, c'est possible à Bruxelles. En Belgique, les musées sont restés ouverts depuis le 1er décembre grâce à la mise en place de protocoles stricts et d'une jauge quotidienne. Il faut réserver sa place à l'avance, mais une pause culturelle est possible. Même chose dans certaines régions espagnoles, à Madrid et Barcelone notamment. Et là-bas, cinéma et théâtre accueillent aussi du public. Il faut être masqué et le nombre de places est limité. La Suisse s'apprête à prendre le même chemin dans les salles. 50 personnes maximum seront autorisées. Les terrasses des cafés et des restaurants helvétiques vont aussi accueillir des clients. 4 personnes par table maximum. En Belgique, il faudra attendre le 8 mai. En Italie, en Allemagne, en revanche, pas de perspective à ce stade. Seul le land frontalier de la Sarre a rouvert ses restaurants le 6 avril. Pour y entrer, il faut réserver et présenter un test négatif de moins de 24 heures.
Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. En France, sur le plan sanitaire, on constate une légère amélioration pour certains indicateurs. Le taux d'incidence n'augmente plus et le taux de reproduction du virus est repassé en dessous de 1. Dans le même temps, la vaccination se poursuit. Plus de 12 300 000 personnes ont reçu une première dose.
Faut-il, au cœur de cette campagne, réserver des créneaux pour les assesseurs qui se mobiliseront lors des prochaines élections régionales?
Oui, le scrutin sera organisé les 20 et 27 juin. Il est indispensable de protéger les bénévoles, selon un élu du Nord qui a interpellé le gouvernement, Lionel Gougelot.
Là, on se retrouve avec un contexte quand même très particulier d'une double élection, dans un contexte sanitaire qu'on connaît.
2 élections, régionales et départementales. Pour les bureaux de vote de la commune de Mouvaux, 13 000 habitants, cela veut dire 280 assesseurs et scrutateurs à recruter. Pour l'instant, Christophe Aimé, en charge des élections à la mairie, n'en a inscrit qu'une dizaine et il se demande s'il aura le jour J le nombre de bénévoles suffisant.
On compte donc sur les assesseurs désignés par les candidats et puis ensuite les bonnes volontés. On espère qu'ils ne nous feront pas défaut et effectivement... Ils sont beaucoup plus préoccupés par la crise sanitaire et le Covid en ce moment.
Alors pour pouvoir organiser le scrutin correctement, Éric Durand, le maire, ne voit qu'une solution, vacciner les citoyens qui seront volontaires pour tenir les bureaux de vote.
Aller dans un bureau de vote, dans un contexte où on n'est pas vacciné, même avec toutes les précautions, il y a une petite retenue, un climat anxiogène. C'est pour ça que je souhaite vivement que l'on priorise les personnes qui tiennent les bureaux de vote pour garantir leur santé, mais aussi pour montrer à ceux qui veulent venir voter qu'il y a toutes les précautions sanitaires qui sont mises en place.
Et pour l'élu, il faut faire vite afin que les assesseurs et scrutateurs aient reçu leur deuxième injection au moins quelques jours avant le premier tour des élections. À Mouveau, Lionel Gougelot, Europe 1.
Les régionales donc organisées dans un peu plus de 2 mois. La gauche aujourd'hui décide de regarder encore plus loin.
Oui, la présidentielle dans un an. À l'initiative de l'écologiste Yannick Jadot, plusieurs dirigeants de la gauche seront autour de la table ce matin. On ne parle pas encore d'un candidat commun, mais au moins le dialogue est lancé. Claudia Bertram.
Écologistes, socialistes, insoumis, communistes et des anciens macronistes, ils seront une quinzaine autour de la table. L'enjeu est de taille à un an de la présidentielle, avec des sondages alarmants pour la gauche, quelle que soit la configuration. Dans l'entourage de Yannick Jadot, on le martèle, on n'a pas le droit de déconner. Mais chacun vient avec ses propres intérêts. Il y a ceux qui militent pour une candidature commune, au premier rang desquels le patron du PS, Olivier Faure. Si Jean-Luc Mélenchon est absent, la France insoumise sera bien de la partie, mais pour parler pacte de non-agression à gauche. Quant aux communistes qui sont en train de désigner leur candidat à la présidentielle, pas question de participer à une primaire. Dans le propre parti d'Yannick Jadot, on répète que la primaire des Verts, elle, se tiendra comme prévu en septembre. On est tous condamnés à la photo de famille, mais les mariages forcés, ça marche rarement, lâche une écologiste. Malgré tout, dans l'entourage d'Anne Hidalgo, on se veut optimiste. Je ne sais pas si ça va marcher, mais il y a de la volonté. Et à gauche, c'est déjà pas mal.
Et Claudia Bertram parlait d'Olivier Faure, il est justement avec nous dans moins de 10 minutes.
En bref, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver Mia et sa mère. Elle pourrait être à l'étranger à l'heure qu'il est. La mère qui n'avait pas la garde de sa fille aurait commandité son rapt. 3 hommes soupçonnés d'être les ravisseurs sont en garde à vue.
8h06, vous restez avec nous. Dans un instant, nous serons à Windsor où les funérailles du prince Philippe seront célébrées. Cet après-midi, à tout de suite.
Europe 1. Votre matinale info, Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal de Marguerite Lefebvre, la Grande-Bretagne s'apprête à célébrer cet après-midi les funérailles du prince Philippe. Et jamais dans l'histoire, cérémonie n'aura été aussi intime pour des obsèques d'un membre de la couronne.
En raison de la pandémie, les règles sont extrêmement strictes. À Windsor, les invités ne seront que les très proches du prince, Anaïs Cordoba.
Oui, seulement 30 invités vont assister à la cérémonie religieuse. La reine, bien sûr, les enfants et petits-enfants du prince avec leur conjoint, à l'exception de Meghan, enceinte restée aux États-Unis sur les conseils des médecins. Seront aussi présents quelques membres de la famille allemande de Philippe et son amie la plus proche, la comtesse Mountbatten. Une cérémonie intime donc, exactement comme le souhaitait le prince, qui a de son vivant préparé l'organisation de ses funérailles avec minutie. Tout va débuter à 15h40 quand le cercueil quittera le château. En guise de corbillard, un 4x4 Land Rover, en partie conçu par Philippe. Plusieurs membres de la famille royale marcheront derrière le cercueil. Puis, à bord d'une limousine, la reine fermera le cortège. Des membres des forces armées britanniques seront aussi présents tout au long de la procession qui sera ponctuée de tirs de canon et du chant de l'hymne national. À l'arrivée devant la chapelle Saint-Georges à 16h, le cortège s'immobilisera pour une minute de silence qui se tiendra dans tout le pays. L'office sera ensuite célébré par l'archevêque de Canterbury, chef spirituel des Anglicans.
Merci Anaïs Cordoba à Windsor pour Europe 1. Et on quitte Windsor et on part à Jérusalem.
Ce que vous entendez, c'est la prière du vendredi, célébrée hier en ce début de Ramadan. Image impressionnante de 70 000 musulmans sur l'esplanade des mosquées. Un moment de communion permis par la vaccination en Israël. Reportage à Jérusalem de Clotilde Bravko.
Beaucoup ont quand même gardé le masque. Mais l'esplanade des mosquées était noire de monde. Et des dizaines de fidèles ont dû prier à l'extérieur, devant les portes, pour ce premier vendredi de Ramadan. Sana Azir est venue avec sa fille. Cette année, le mois sacré a de nouveau un goût de fête.
Je suis en extase. Dieu merci, on peut enfin célébrer en famille, tous ensemble.
À l'entrée, Adam Kabaja, 22 ans, est bien vacciné, mais personne ne lui a rien demandé.
On peut rentrer sans avoir été vacciné. Il ne regarde pas.
Pourtant, les forces de sécurité israéliennes sont partout. Mohamed El-Haj explique que les contrôles ont été faits en amont, à l'entrée de Jérusalem.
On est content d'être là. L'an dernier, à cause du corona, on n'avait pas pu prier. Là, ils n'ont laissé passer personne de Cisjordanie. D'ordinaire, un premier vendredi de Ramadan, tu ne sais plus où mettre les pieds tellement il y a de monde.
Des milliers de Palestiniens ont ainsi été refoulés au checkpoint car ils n'étaient pas vaccinés. En Cisjordanie et à Gaza, les doses manquent encore cruellement. Les années précédentes, les fidèles étaient deux fois plus nombreux à prier à Al-Aqsa au début du Ramadan. Jérusalem, Clotilde Mravko, Europe 1.
On reste à l'étranger, Marguerite. C'est une prise de parole que l'on voulait vous faire écouter ce matin. Une page se tourne à Cuba puisque Raúl Castro va quitter le pouvoir.
Que personne n'en doute. Tant que je vivrai, je serai prêt, avec le pied sur l'étrier, pour défendre la patrie, la révolution et le socialisme. Plus fort que jamais, crions « Vive Cuba libre !»« Vive Fidel !»« La patrie ou la mort !»
Voilà Raúl Castro qui s'est exprimé hier lors du congrès du Parti communiste. Il laisse donc la place à la nouvelle génération avec cet appel à un dialogue plus respectueux entre Cuba et les États-Unis. En football, un résultat à vous donner ce matin. Lille, le leader, a fait match nul hier soir face à Montpellier, 1-1.
Et puis Paul McCartney qui fait à nouveau parler de lui aujourd'hui.
Ah oui, quelques mois après avoir sorti son dernier album, le voilà de retour. Pas avec de nouvelles chansons, mais avec de nouveaux interprètes. Il a en fait invité de nombreux artistes à venir chanter ses propres textes. Angèle Châtelier.
McCartney 3 est le troisième album que Paul McCartney a fait tout seul, absolument tous les instruments. Cet album a boosté les ventes de vinyle aux États-Unis. Et pour le célébrer, Paul McCartney a invité ses amis musiciens à se réapproprier les chansons de cet album. Par exemple, écoutez l'original de Lavatory Lil. Voici l'interprétation qu'en a fait Josh Homme, leader du groupe de rock Queen of the Stone Age. Sur cet album de reprise, un artiste différent par chanson. Il y a Beck, par exemple. Ou encore Phoebe Bridgers, figure du rock indie américain. Collaboratif détonnant, assez inégal aussi, mais qui nous fait patienter jusqu'à la sortie à l'automne, on l'espère, des mémoires de Paul McCartney, qui devrait s'appeler Les Paroles de 1956 à aujourd'hui.
Voilà pour ce McCartney 3 avec Angèle Châtelier.
Merci Marguerite, retour de l'info à 8h30.